Jusqu'à 13h, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, vous allez parler avec vos invités de Minos Éditions, Emmanuel.
Exactement. On retrouve aujourd'hui cette maison d'édition vendéenne assez récente, lancée par deux personnalités qu'on entend assez régulièrement sur Neuf, qu'on connaît bien et que nous découvrons aujourd'hui dans un tout nouveau registre, dans deux nouveaux registres, j'ai envie de dire, au pluriel. Avec nous, bonjour Gérard Beneteau et Philippe Boisselot.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Gérard, on vous a reçu récemment, il y a quelques semaines maintenant, avant votre conférence avec l'Art Expo, si je ne me trompe pas, l'histoire Art Expo, sur le marais breton vendéen. On va, je crois, aujourd'hui s'éloigner un peu du Gérard qu'on connaît.
Oui, aujourd'hui, vous allez avoir Lucie.
On va voir Lucie,
voilà.
Directement. L'autrice,
E-U-R-E.
Oui, voilà. Oui, on préfère aussi ce mot auteur,
E-U-R-E. On peut dire auteur, oui.
Voilà, mais nous, on connaissait l'anthropologue et l'archéologue aussi. On peut découvrir maintenant l'auteur. On peut rappeler que on vous connaît tous les deux comme savant. Hein, et puis vous, Philippe, comme directeur de l'OPCI, Office pour le patrimoine culturel immatériel et centre de ressources ethnodoques. Mais vous aussi, eh bien, on ne va pas vous retrouver dans ce registre-là non plus.
Absolument.
On va vous retrouver comme auteur
oui.
de fiction,
oui.
de science-fiction.
Mmh.
Comment vous êtes-vous connus déjà, tous les deux ?
Bien, Gérard connaissait nos activités d'ethnographie, d'ethnologie depuis quelques dizaines d'années, on va dire. Oui. Et puis, il a rejoint notre association avant le Covid, on va dire. C'est un jalon historique que tout le monde comprend. Il a intégré le conseil d'administration et c'est un contributeur scientifique très, très important à nos côtés. Donc scientifique et puis aussi également administrateur. Et puis on a développé, lui et moi, une amitié. Et puis on a constaté qu'on partageait des goûts pour l'écriture, certes dans des productions scientifiques, mais aussi pour la fiction.
Et pour la fiction, bref, enfin la fiction, la science-fiction presque, j'ai envie de dire aussi. C'est pas que de la science-fiction.
Non, tout à fait. Oui.
Et vous êtes dit un jour, et si on s'éditait, c'est ça ?
C'est ça.
C'est venu comment ?
Alors, vous savez qu'avec nos activités à l'OPCI, on a développé des activités d'auto-édition déjà. On fait tout pour valoriser des écrits, en tout cas des contenus, à travers expositions numériques, mais aussi l'édition. Donc on a cette expérience professionnellement. Mais là, effectivement, c'est un pas de côté, même s'il y a toujours un lien avec l'observation des humains. Et donc on avait ce savoir-faire et puis cette envie. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu courir les maisons d'édition pour dans l'espoir fébrile d'être édité, publié. Donc on s'est dit, on va se lancer. C'est une maison d'édition associative, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la contribution bénévole pour contribuer à l'économie de chacun des projets. Même si à un moment il faut faire appel à un graphiste professionnel qui est rétribué et un imprimeur professionnel
qui est rétribué,
mais c'est vrai que pour les phases de correction de mise en page, on fait encore appel à du bénévolat.
Et donc vous avez créé Minos Éditions pour, je cite, alors une littérature d'autres mondes au pluriel. Quelle était un peu l'idée générale de ce projet ?
Alors, autres mondes, la science-fiction évidemment, le fantastique, et puis aussi des histoires méconnues dans nos sociétés. Des histoires de genre, notamment chez les personnes qu'on catalogue souvent sous le nom de transgenre, par exemple, de lesbiennes ou autres personnes qui sont sur le côté de la société, mais qui font la société depuis des milliers d'années. Elles apparaissent depuis quelques dizaines d'années, bien sûr. C'est une évolution de nos sociétés. Et puis, tous les deux, bon, c'est avant tout aussi une histoire, une aventure d'amitié. Tous les deux, on s'est lancé parce qu'on s'aime bien. Et ça, c'est avant tout aussi ça, cette chose-là. Là, tout le monde le sait maintenant, puisqu'on le dit à la radio. Et c'est aussi une interrogation, ce sont des interrogations qu'on se pose, tous les deux, sur les modifications de nos sociétés, l'évolution de nos sociétés, dont certains aspects nous inquiètent.
Voilà, vous sortez à la fois de vos registres habituels et en même temps on sent bien que quelque part il y a aussi toutes vos connaissances, toutes vos études aussi peuvent mener à ces réflexions qui vont aboutir à des fictions, mais qui ne sont pas si fictives que ça quelque part.
Bien sûr, oui, c'est surtout parce qu'on s'appuie sur d'abord l'expérience de la vie, notre engagement philosophique aussi. C'est important, nous avons beaucoup d'inquiétudes sur nos sociétés, nous aimons nos sociétés, nous aimons les êtres humains et nous sommes inquiets pour eux. Nos romans, c'est aussi une façon d'interroger d'autres populations parmi les nôtres, parce que effectivement les publications scientifiques c'est imbuvable des fois. Donc il faut se rapprocher des nôtres, hein, c'est-à-dire de toutes les personnes qui composent nos sociétés, et ces romans y participent.
Oui, le choix de la fiction, du roman, c'est aussi important pour faire passer des messages.
Ah, bien sûr.
C'est un peu le but.
Oui, pour nous, mais aussi pour tout un tas de personnes qui sont passées avant nous. Beaucoup de scientifiques, dans le passé récent, ont écrit des romans de science-fiction.
Alors, on vous retrouve effectivement romancier, on vous retrouve éditeur avec Minos, mais aussi les premiers auteurs. Hein. La maison d'édition, elle a quoi, un an, deux ans?
Oui, un an, c'est ça.
Un an, et vous arrivez déjà avec trois livres, et d'autres arrivent dès demain.
Voilà, quatrième demain, Les Roses de Frisco.
Ça va vite, en fait. Hein.
Oui, on avait déjà des choses en magasin, comme on dit, en tout cas en réserve. Moi, j'avais déjà une première édition de Bleu Or que j'avais auto-édité, et puis je terminais l'écriture de d'Augmente-moi, et puis Gérard avait déjà des centaines de pages de ses différentes séries.
Alors effectivement, vous êtes venu aujourd'hui avec vos livres, les premiers en tout cas, Philippe Boisselot, auteur de Bleu Or, vous l'avez dit, et d'Augmente-moi. Augmente-moi, c'est le premier que j'ai... Alors, j'ai pas lu, hein. Vous les avez apportés tout à l'heure, je l'ai juste parcouru rapidement. Ce livre, c'est un roman d'anticipation. On est dans la dystopie la plus complète, hein, un nouvel ordre mondial interplanétaire. Mais c'est évidemment inquiétant, mais quand je vois le sujet, les IA, bah, on est en plein dedans presque.
Oui, on est en plein dedans maintenant. Quand j'ai lancé l'écriture en 2017, on n'était pas tout à fait dedans.
Ah, ouais.
L'IA a commencé à apparaître quand même dans les offres de services des agences du numérique, mais aujourd'hui on est en plein dedans, depuis 2023 effectivement. Et donc le roman, c'est une façon aussi de se poser ensemble des questions. Voilà. Et donc là, j'imagine ce qui pourrait être une des options que l'on pourrait suivre, et c'est vraiment les questions qu'on se pose en ce moment.
Oui, complètement.
Jusqu'où on peut contrôler l'IA, jusqu'où on peut être dépassé, qu'est-ce qu'on va faire pour gérer cela, nous, les homo sapiens, qu'est-ce qui va nous faire accepter ou non d'être des différentes augmentations. On parle des puces d'Elon Musk, par exemple, on parle d'hybridation, on parle de clonage, on parle, etc., etc. Voilà, donc qu'est-ce qui va devenir? Donc c'est une forme de projection.
Et voilà, vous posez des questions autour, par exemple, de l'IA qui devient autonome. Je vois autour de la question de l'immortalité, peut-être, d'une société technologique à la fois fascinante, mais aussi fascinée par l'humain.
Oui.
Enfin, bref, je ne veux pas plus loin que ça, mais on est dans un roman d'anticipation. Et c'est votre dernier roman, ça,
Augmente-moi. Oui, c'est ça, c'est mon deuxième. Là.
Donc, hop, Augmente-moi, on a Bleu Or. Bleu Or, c'est le premier que vous avez édité. Alors, on n'est pas dans l'anticipation, mais on est dans la romance.
Oui.
On n'est pas au bout de nos surprises.
Oui, et en fait, le sujet ici, c'est le consumérisme, le mercantilisme, et puis le produit que je place au cœur, c'est l'art. Alors l'art, ça nous élève, on est fasciné par les artistes, mais c'est aussi un business. Et donc là, j'interroge le business et notre capacité à accepter que le marché de l'art, il est mondial et c'est un énorme business. Et puis là, j'essaie de décrire aussi des œuvres, des installations, des performances, à la fois pour me situer en tant qu'auteur et artiste et puis imaginer des œuvres, mais aussi pour nous permettre de questionner notre rapport à l'art, à la création, différentes formes. Et puis cette dialectique qu'il y a dans le monde de l'art entre les excès parfois qu'on peut reprocher à l'art contemporain ou que certains reprochent, et puis un traitement un peu plus pur, on va dire, des techniques qu'on apprend en école d'art. J'essaie de réunir tous ces ingrédients qui font le monde de l'art aujourd'hui, de l'art contemporain, et puis j'espère montrer mon amour pour l'art quand même, et l'art contemporain notamment. Voilà.
Mais avec aussi une phase romance, hein,
oui.
Des quêtes amoureuses.
Oui, il y a des histoires d'amour dans les deux, effectivement.
C'est important, ça,
voilà,
aussi.
Voilà. Et d'ailleurs, dans Augmente-moi, l'amour est vraiment au cœur du questionnement, parce qu'une chose que ne possèdent pas les machines, c'est le sentiment amoureux que nous possédons, les humains, que nous possédons encore. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable, de précieux, mais que l'IA ne possède pas encore, n'est pas encore en mesure de synthétiser. Et ça va être l'objectif des machines, que d'essayer de synthétiser ce truc qui nous distingue des robots.
Alors, vous serez ce week-end au Salon du Livre de Saint-Gervais. Oui. Il y aura deux stands, en fait, côte à côte. Minos et OPCI.
Oui, voilà.
Et alors, vos livres, vous les avez présentés ou pas encore? Ou c'est la première fois que vous les présentez?
Alors, on en a présenté à des librairies de Chalon, à Saint-Jean aussi. Et puis, ben, là, on va un petit peu s'officialiser, communiquer sur cette initiative. Oui.
Et vous sentez que vous allez un peu surprendre, quand même, tous les deux, dans ce registre-là?
Oui, sans doute, oui.
Vous avez hâte?
On se cache pas, vous voyez.
Non, heureusement. Mais vous avez hâte de vous imaginez des réactions ou pas encore?
Oui, ben on espère.
Vous espérez des réactions?
Donc il va y avoir des réactions inquiètes.
Ah,
et intéressé.
Ah, pour le sujet qu'on traite, effectivement, mais on va avoir beaucoup d'amis et puis ben, peut-être rencontrer aussi des auteurs. C'est déjà le cas de Marlène Conant qui nous a envoyé un projet qu'on devrait rencontrer ce week-end, qui est connue ici en tant que comédienne et metteur en scène à Fromentine.
Exactement.
Et voilà, donc l'idée c'est de pouvoir monter des projets et étudier évidemment la question du financement, parce que tout ça c'est une économie aussi avec ces gens qui voudraient se lancer dans les... La publication.
Et ben on va en parler justement en deuxième partie, puis on va parler aussi de Gérard, auteur, avec, cette fois c'est pas Gérard Benetto qui signe, c'est Jay, c'est Lucie aussi, et on va vous découvrir dans quelques minutes.
Juste après, Aloy Black sur Neuve. What does it take to move a mountain that no one wants to climb? When they tell you there's no answer, how do you change the heart and mind? Can you face the road to freedom when the past is in your way? In the darkness of the night, the future may be hard to find, but I believe that there's a day.
Vos projets? Pensez entreprise 1100 Henri et Fils. Fabrication d'abris et annexes de jardin, garage, préau, carport, abri piscine et cuisine d'été. Remplacement d'ouverture, de fermeture, porte de garage et d'entrée, clôture, portail et automatisme, pergola bois et pergola bioclimatique. 1100 Henri et Fils à Salertaine, reconnu RGE pour les menuiseries et travaux d'isolation. Exposition au 20 route du Pissotte à Saint-Hilaire-de-Riez. Info sur ets1100.com.
Les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont de retour. Des animations sont proposées jusqu'au 3 mai sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour célébrer le printemps de la Sardine. Sardinades, concerts, ateliers jeunesse, visite de lieux uniques comme la conserverie Gendreau et la Criée.
Appréciez la sardine au restaurant, retrouvez-la au marché et sur les étals de votre poissonnier.
Rendez-vous samedi 3 mai au port de pêche de Saint-Gilles pour assister à la cérémonie de l'arrivée de la sardine.
Info sur paysaintgilles-tourisme.fr.
Et jusqu'à 13h sur Neuve, la suite des rendez-vous de midi avec vous aujourd'hui, Emmanuel. Vos invités Philippe Boisselot et Gérard Beneteau.
Avec Minos Édition, qui est porté effectivement par Philippe et Gérard. Minos, alors on ne l'a pas encore dit, mais c'est un nom qui est quand même emprunté à la mythologie grecque, je ne me trompe pas. Comment est venue l'idée de ce nom?
Bah, on cherchait sans doute quelque chose en rapport avec la mythologie, bien sûr. Et puis, Minos, ça évoque des personnages curieux, ça évoque un labyrinthe aussi, ça évoque donc un dédale, un monstre, bien entendu. Monstre, hein, oui. des d'autres mondes aussi, des personnages, voilà. Et ça sonnait bien, donc on a opté pour Minos, qui n'était pas pris.
Voilà, on rappelle, vous n'êtes pas dans la littérature scientifique ou savante à laquelle vous nous avez habitués, mais dans une fiction, alors qui n'est peut-être pas si fictive que ça, en tout cas, ce genre littéraire, les genres littéraires là, que vous déployez, vous permettent d'aborder des sujets intimes et des sujets qui vous touchent particulièrement. Oui. Que vous voulez défendre,
oui, si je comprends bien en vous écoutant. Notamment les communautés LGBT, entre autres, pas que. Donc c'est le cadre de la série Les Yeux Bleus.
Que vous signez, Gérard, mais alors vous ne signez pas. Alors Philippe signe Philippe Boisselot, vous non. Vous changez, vous avez un premier pseudo.
J'ai décidé d'être celle que je suis. C'est ma personnalité, je la défends. Et donc, dans l'écriture des roses, c'est Lucie.
Alors, donc vous avez deux pseudos en fait, Gérard.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a deux livres. Il y a un livre qui sort demain, signé Lucie. Mais on parle de celui-là déjà tout de suite. Les roses de Frisco.
Les roses de Frisco, une trilogie.
Alors c'est une romance lesbienne, voilà, ce qui est écrit sur votre site. Parce que je suis allée voir votre site, Minos, oui. et vous ouvrez cette question. Lucie, autrice ou auteur, oui. suspecte de genre, voire d'identité tout court, ne sévit que dans les romans de genre, d'où sa nature équivoque. Alors là, c'est que le début du texte. Après, vous parlez peut-être de questions de réalité. Mais vous avez décidé donc de signer sous le nom de Lucie.
Oui, bien sûr, parce que c'est aussi mon prénom que je porte depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
Voilà, mais je suis assigné Jean Beneteau.
Eh bien, je ne sais pas si peu de gens le savent ou si beaucoup de gens le savent, en fait.
Ben, écoutez, c'est un moyen pour moi, en tout cas, d'affirmer mon identité personnelle pour les roses de Frisco. À l'intérieur de la série Les Yeux Bleus, c'est beaucoup plus profond. Là, je parle des personnes, plus particulièrement des personnes transgenres. Donc, les personnes qui sont considérées, moins maintenant, mais pendant très longtemps, comme des monstres, puisqu'ils se transforment. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec le loup-garou ou des personnages comme ça.
Mais la transformation fait peur et angoisse la société.
Ben, en réalité, la société est hétéronormée. Vous avez des femmes et des hommes, point. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Et plus c'est complexe, plus c'est inquiétant. C'est pour ça que c'est ce qui nous lie tous les deux et toutes les deux. C'est le fait que nous essayons d'écrire un monde qui est en fait chez nous au quotidien.
Oui, donc ça paraît être une fiction, science-fiction, un peu romance fantastique, hein, Les Yeux Bleus, oui. Signé par Jay. Oui. Donc on part sur un personnage qui a des yeux très particuliers, etc. Mais en fait, sa différence, elle va aller bien au-delà de ça, évidemment.
Bien sûr.
Mais voilà, on n'est pas que dans la science-fiction, ni que dans le fictif complet, au contraire.
Hein. Oui, en réalité, vous savez, les personnes qui ont des yeux comme ça existent. Mais comme la plupart des personnes qui sont un petit peu différentes de la société hétéronormée, elles se cachent. C'est ce que je veux les faire sortir de l'ombre.
Donc c'est un sujet qui va, j'imagine, être vraiment à proposer à beaucoup de jeunes aujourd'hui, ce genre de livre, peut-être.
Non, je pense. Oui.
Pour répondre à des questions, poser des questions aussi.
Oui, et puis Les Yeux Bleus met en scène des chercheurs.
Oui.
le monde scientifique. Et c'est intéressant aussi pour des jeunes qui sont dans les études de voir un petit peu comment fonctionnent des scientifiques qui sont en paix sur différents terrains. Et là, on voyage dans le monde entier et à la quête de quelque chose.
Et j'imagine, alors peut-être à tort, que le monde scientifique n'est pas le plus ouvert sur le sujet. Je ne sais pas, je me trompe peut-être.
C'est pas tout à fait ça. C'est que dans le monde scientifique, il y a aussi des personnes un petit peu hors du commun.
Et ça fait du bien.
Oui, absolument.
On va vous retrouver tous les deux ce week-end, on l'a dit, au Salon du Livre de Saint-Gervais. Vous aurez deux stands côte à côte. Ça. Vous pourrez en fait aller l'un et l'autre, celui de Minos.
Changer de casquette.
J'aurai un stand édition oui, Minos. Et puis le stand de l'OPCI, vous êtes venu, alors il ne reste pas beaucoup de temps, mais avec un livre aussi aux éditions La Geste, pour le coup, Philippe Boisselot, Patrimoine vivant en Pays de la Loire. Donc là, c'est le directeur de l'OPCI hein, qui a dirigé cet ouvrage collectif, avec également Jean-René Maurice. Je voulais quand même juste terminer aussi sur ce sujet qu'on a évoqué juste avant la pause, à savoir l'économie du livre. Aujourd'hui, ça coûte combien de monter une maison d'édition, d'éditer des livres? Alors, vous me disiez, c'est un peu particulier puisqu'on est une maison d'édition associative.
Oui, bah écoutez, sortir un livre, c'est au moins 10 000 euros, si je puis dire, si on paye toutes les étapes de la fabrication. Ici, on a choisi le modèle associatif pour pouvoir s'investir et faire des économies à travers le bénévolat, et notamment le nôtre. Mais effectivement, ça demande quelques moyens et c'est dommage de s'empêcher et d'empêcher des auteurs. Alors évidemment, on a une obligation de veiller à un minimum, maximum de qualité parce qu'en face, il y a vraiment une filière du livre qui fait un travail très sérieux. De vulgarisation dans les librairies, de production par les maisons d'édition. Donc il ne s'agit pas de... Mais l'écriture et l'auto-édition, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis 10 ans. On a l'impression que tout le monde écrit, et c'est très très heureux, bien sûr. Donc il peut y avoir des pratiques amateurs de qualité, il peut y avoir des pratiques amateurs de moindre qualité, il peut y avoir bien entendu des pratiques professionnelles. Donc nous, on essaye de promouvoir une démarche, et on a choisi cet outil, une association, une maison d'édition. Voilà, et avec... tout le respect qu'on doit aux grands professionnels, les éditeurs et les libraires du milieu. Donc on essaye vraiment d'être au maximum de la qualité qu'on peut offrir aux lecteurs dans ce qu'on fait, y compris dans la fabrication. On travaille avec l'imprimerie IGEO pour y survivre. On a choisi aussi des contributions locales et puis une graphiste à Nantes.
Noriane, oui.
Amélie...
Oriane
Durand, pardon.
Oriane Durand, qui
fait les graphismes.
De tous vos livres.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Donc vous serez avec ces livres-là et puis bien d'autres, j'imagine, ce week-end. Et puis le nouveau qui sort demain. Donc la primeur, ce sera au Salon du Livre de Saint-Gervais.
Oui, voilà.
Pour les roses de Frisco. Et puis vous serez aussi avec plein de livres avec l'OPCI, Ethnodoc.
Oui, tout à fait.
Montagne de livres.
Bon, merci beaucoup le Salon du Livre et puis Nov FM pour votre accueil.
Avec un grand plaisir. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir reçu et puis j'espère que voilà, vos livres vont avoir un grand succès qu'ils méritent.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bonne fin de semaine à vous.
Merci et rendez-vous ce week-end donc, samedi, dimanche, le Salon du Livre à Saint-Gervais. Demain, dans les rendez-vous de midi, c'est le SM Twirling Chalon.
Oui, qui organise tout ce week-end le championnat national individuel de Twirling. Donc senior et junior. On va recevoir la présidente du club, Christelle Garot, et Cléa Dupin, qui est justement championne nationale 2024.
Demain, c'est noté, ce sera sur Nov à 12h35. Bon après-midi, bon apport en musique.